Sous la coupole. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Le 23 novembre 2007 s'est déroulée sous la coupole de l'Institut de France la séance publique annuelle de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Canal Academy vous propose d'écouter la retransmission de cette séance solennelle durant laquelle vous entendrez un discours du secrétaire perpétuel Jean Leclanc consacré à la vie et aux activités de l'Académie au cours de l'année 2007. Vous entendrez la lecture du palmarès 2007 par le vice-président de l'Académie, l'orientaliste grand spécialiste de la civilisation de l'Indus, Jean-François Jarige. Vous saurez tout donc sur les prix et les lauréats de cette année. Vous entendrez aussi le discours de l'historien Jean Delumeau, membre de l'Académie, grand spécialiste d'histoire des mentalités religieuses, intitulé « Dom Mabillon, le plus savant homme du royaume ». Et enfin, vous entendrez le discours du président de l'Académie, Bernard Potier, grand spécialiste en France de la linguistique amérindienne, discours intitulé « L'Institut et les Amériques ». Retrouvons sous la coupole Jean Leclanc, secrétaire perpétuel de l'Académie, bien connu du monde des archéologues et des égyptologues, qui rend hommage, selon l'usage, aux académiciens disparus de sa compagnie au cours de cette année et qui dresse le bilan des activités de l'Académie, rôle qui échoit habituellement au président. Preuve que les traditions ne sont pas figées à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Jean Leclanc, sous la coupole.
Monsieur le chancelier, mesdames et messieurs les secrétaires perpétuels, excellences, mes chers confrères, mesdames, messieurs. Sans qu'il en ait ainsi été dès le départ, c'est néanmoins une très longue tradition qui prévoit que chaque année, le dernier vendredi de novembre, l'Académie des inscriptions et belles-lettres tienne une séance solennelle sous la coupole. Les traditions sont respectables, mais elles ne sont pas figées. Elles évoluent au cours des ans. Aussi, le rôle du secrétaire perpétuel lors de la rentrée solennelle de l'Académie a-t-il connu depuis ses origines bien des mutations. Ce serait une longue et d'ailleurs intéressante histoire de vous conter ces transformations. Nous ferons en une autre occasion. Cette année, notre président, ayant souhaité vous entretenir de la place des études américanistes Kate Conti, alors même qu'un institut des Amériques en gestation depuis 1998 avait été présenté en mars dernier par le ministre de l'Éducation nationale d'alors, Gilles de Robien, devant l'Académie des sciences morales et politiques, il m'échoit la tâche de dresser devant vous le bilan annuel de la vie et des activités de notre compagnie pour 2007, en réalité, durant la période qui s'est écoulée depuis la rentrée solennelle précédente, à la fin de novembre 2006, jusqu'à la fin de novembre 2007. La présentation de ce bilan sera suivie de la lecture par notre vice-président, le professeur Jean-François Jarige, du palmarès de nos prix et distinctions, suivi de la proclamation des nouveaux archivistes paléographes. Puis, après le discours de notre confrère Jean Delumeau sur Dom Mabillon, célèbre érudit, dont nous célébrons cette année le tricentenaire de la mort, la séance s'achèvera par la communication de notre président Bernard Potier sur les études d'américanisme en France. Depuis notre dernière réunion, sous la coupole, le 24 novembre 2006, nous n'avons pas été épargnés, trois de nos membres parmi les plus éminents ayant disparu. Une sage et pieuse tradition m'invite à leur adresser, à l'ombre de cette enceinte qui fut une chapelle essentiellement, un dernier adieu confraternel a évoqué leur mémoire en témoignage de gratitude et d'admiration. Ces débits, suivant Braculo eius in medio nationum, vous pouvez tous voir cette formule au-dessus de nos têtes, à la base du tambour supportant notre coupole, il siégera sous son ombre parmi les nations, ce qui est une citation d'Ézéchiel 31:17. Dévoyé de son sens originel, comme bien dans les textes de la Bible, une exécration contre Pharaon et sa descendance voit disparaître dans le Shéol, nous pouvons, nous, y voir une promesse de protection suprême que l'on souhaitera propitiatoire pour nos regrettés disparus. Et en fait, cette immortalité, qui est l'apanage des académiciens, ne la recueillons-nous pas en quelque sorte, on va le voir, sur les fruits de notre labeur scientifique. C'est ainsi ce que rappelle la devise que vient de confectionner avec talent notre confrère Emmanuel Poul, ancien directeur de l'école des Chartes, pour les deux cadrans solaires, tout récemment restaurés dans la grande cour de l'Institut. Horas tuas, quia breves, immortalibus operibus vobe. Puisque tes heures sont courtes, c'est à des œuvres immortelles qu'il te faut les consacrer. Le 15 janvier 2007 a disparu Madame Colette Kaya. À la fois philologue, historienne des religions, elle régnait en France sur les études indiennes et plus spécialement à l'ensemble des recherches sur les civilisations du sud-est asiatique. Sanskritiste hors pair, elle s'était consacrée à des recherches de premier plan dans les domaines de la littérature comparée et de la lexicographie moyenne indienne, Pali et Prakrit, dont elle était l'un des rares maîtres occidentaux. Ses travaux sur le jaïnisme et le bouddhisme, eux aussi, feront date. Agrégée de grammaire, diplômée de Hindi de l'École nationale des langues orientales vivantes, doctoresse lettres, formée par d'illustres maîtres Jules Bloch, Louis Renou, Madame Colette Kaya avait professé à la faculté des lettres de Lyon, puis à l'université de Paris III Sorbonne Nouvelle. Au CNRS, était responsable du NURA, de philologie bouddhique et jaïna, puis de langue, texte, histoire et civilisation du monde indien. Elle était l'auteur d'ouvrages fondamentaux, d'éditions de grands textes de la littérature jaïne, dont plusieurs furent traduits en anglais, les expiations dans le rituel ancien, pour une nouvelle grammaire du Pali, la cosmologie jaïna, dialectes et formes dialectales dans les littératures indo-aryennes, 1989, enfin, Yogindu, Lumière de l'Absolu, traduit en collaboration avec Madame Nalini Balbir en 1999. Femme de science, Colette Kaya était aussi une femme de cœur, dont les avis généreux et impartiaux ont été d'un secours précieux à notre compagnie. De sa générosité, d'ailleurs, de son ouverture d'esprit, continuera à témoigner la fondation qu'elle a instaurée et qu'elle a confiée à sa collaboratrice de toujours, Madame Nalini Balbir. Celle-ci, dotée de moyens financiers nécessaires, doit aider les enseignants et chercheurs spécialistes des études indiennes dans le sens le plus large. Le 2 octobre 2007, nous a quitté notre doyen d'âge, l'archéologue, céramologue et helléniste Henri Metzger. Ancien élève de l'École supérieure, âgé des lettres, membre de l'École française d'Athènes, puis de l'Institut français d'Istanbul, Henri Metzger a accompli l'essentiel de sa carrière à l'Université de Lyon. Doctoresse lettres avec une thèse portant sur les représentations dans la céramique attique au IVe siècle, il dirigea de 62 à 78 la célèbre mission archéologique française de Xanthos et du Letton en Turquie. En 1975, il fut appelé à prendre la succession d'Emmanuel Laroche à la tête de l'Institut d'Istanbul. Outre ses travaux relatifs aux fouilles de Xanthos, Henri Metzger s'attacha dans diverses contributions aux questions d'iconologie, aux problèmes relatifs à l'histoire religieuse de l'Égypte ancienne. Et au sein de notre compagnie, il exerça jusqu'en 2002 la charge de directeur du Corpus Vasorum Antiquorum, le CVA, l'une des entreprises phares de l'Union Académique Internationale. Le 21 octobre, l'helléniste François Chamou s'est éteint. L'un de nos antiques lisants français les plus connus, à la fois un remarquable connaisseur de l'art grec, un historien à l'ampleur de vue admirable, un archéologue reconnu, un expert en littérature épigraphie grecque. Maître incontesté des études portant sur la Libye antique et la cité de Cyrène, l'un des principaux et plus brillants foyers de l'hellénisme, il avait fondé la mission française en Libye, qu'il dirigea jusqu'en 1981, avant d'en confier la direction à notre confrère, M. Laronde. Il dirigea l'arbitre des études grecques et longtemps il a siégé dans notre commission administrative, car François Chamoux aimait à se dévouer à l'intérêt général. Maître d'œuvre du rapprochement de notre Académie avec l'Académie de Roumanie, qui aboutit à la fructueuse opération scientifique et éditoriale en 1994, il joua également un rôle important dans la constitution du Fonds Louis Robert, un trésor documentaire inestimable dont notre Académie assure la garde avec vigilance et pieux respect après qu'elle ait l'antériorité en 1998. À l'Institut de France, François Chamoux participa aux travaux des diverses commissions et tout d'abord à ceux de la Commission administrative centrale. Il fut également président de la Fondation Jacques Marandré et il m'épaula bien souvent pour la conservation de la Villa Kérylos, ce joyau qui m'a été confié et qui est un fragment d'Hellade sur notre côte d'Azur à Beaulieu-sur-Mer. Il voulut bien m'aider à y organiser plusieurs colloques qui connurent un grand succès, en particulier celui sur histoire et historiographie dans l'Antiquité, un sujet de réflexion qui lui était beaucoup à cœur. Parmi sa très riche bibliographie, je regretterais de ne pouvoir ici que me borner à citer quelques titres. Sa thèse principale sur Cyrénaïque sous la monarchie des Batiades, 1955, dont la lecture suscita bien des vocations. Ses incontournables volumes, souvent réédités, sur l'assiation grecque à l'époque archaïque et classique, l'assiation hellénistique, son Marc-Antoine, dernier prince de l'Orient grec, comme il l'a défini, enfin, son instruction générale à la bibliothèque historique de Diodore de Sicile. Nous avons enfin à déplorer la perte de l'un de nos correspondants français en la personne du médiéviste et historien de l'art Marcel Dullia, qui était un grand spécialiste de l'art roman du sud de la France et de l'Espagne. Parmi la trentaine d'ouvrages qu'il a publiés, qui connurent un grand succès, qu'en témoigne leur réédition, on tiendra sa synthèse sur l'art roman paru chez Masneau, ou encore son ouvrage consacré à la sculpture romane de la route de Saint-Jacques de Conques à Compostelle. Après cette litanie d'une suite de raisons funèbres qui ont fait revivre cependant, à notre souvenir, nombre d'heures brillantes, il convient maintenant de se tourner vers l'avenir. Le 22 décembre a été élu académicien M. Henri Lavagne, ancien élève de l'École supérieure, agrégé des lettres classiques, ancien membre de l'École française de Rome, docteur d'État, directeur émérite à l'École pratique des hautes études, 4e section. À la fois spécialiste de la Gaule romaine, historien des religions, épigraphiste, c'est un expert international reconnu de la mosaïque antique, ainsi que des questions d'iconographie figurée. Membre de plusieurs sociétés savantes, dont l'Association internationale pour l'étude de la mosaïque antique qu'il préside, notre nouveau confrère a été l'organisateur heureux d'une brillante suite d'expositions à Luxembourg sur les lieux de la Gaule, à Madrid sur la mosaïque, à Mayence sur la verrerie, à Rio de Janeiro sur les fresques pompéiennes et bien entendu à Paris sur la peinture romaine, Adrien et Tibure, Zénobie et Palmyre, la Gaule et l'Europe. De sa riche bibliographie, on citera seulement sa thèse intitulée « Operosa Antra », sont des recherches sur la grotte à Rome, plusieurs fascicules du recueil des mosaïques de la Gaule, publiés sous les auspices de notre Académie, ou bien sa remarquable édition de la Gaule romaine du Grand Fucel de Coulanges. Lui a été confiée la direction de ce recueil des sculptures sur pierre de la Gaule romaine, que nous appelons le Nouvel Espérant Dieu, en souvenir du maître d'œuvre de la première édition. Sa nouvelle série, un premier volume est paru magnifiquement illustré sur Vienne en Isère, suivi en 2006 d'un second sur Lyon. Un troisième volume sur les Leucs est annoncé, sera suivi par les Séquanes. D'un autre côté, pour faciliter la consultation de cette masse de documentation, pour faciliter les mises en corrélation du matériel, est prévu le lancement sur le net d'une base de données qui viendra parachever les éditions papier aujourd'hui disponibles. Mais si vous le voulez bien, fondons-en maintenant au bilan de cette récente année d'études. Comme l'a rappelé l'article 1er du décret du 11 janvier 1999, portant approbation des statuts de l'Académie d'inscription des belles-lettres, notre compagnie a pour mission principale l'étude scientifique des monuments, des documents, des langues et des cultures, des civilisations de l'Antiquité, du Moyen-Âge et de l'âge classique, ainsi que des civilisations non européennes. Aussi, veille-t-elle à faire mieux connaître les avancées de la science dans les vastes domaines relevant de sa compétence, depuis les époques les plus reculées jusqu'au XVIIe siècle, en offrant une tribune aux travaux jugés les plus méritoires ou les plus stimulants. Présentée à l'occasion des séances hebdomadaires du vendredi après-midi, ces exposés prennent la forme soit de brèves notes d'information, soit de communications plus longues, qui permettent d'aborder des questions de fond et de dresser le bilan de l'entreprise de longue haleine, archéologique en particulier. Dans l'année écoulée, nous avons organisé 34 séances. Durant ces réunions, nous avons entendu 24 notes d'information et 40 communications, ainsi qu'une notice par notre confrère Claude Nicolet sur les travaux de son maître William Seston, soit une centaine d'exposés se répartissant équitablement entre les trois domaines majeurs de notre académie, l'orientalisme, qui inclut une immense aire géographique allant de l'Afrique du Nord à l'Extrême-Orient, d'autre part, l'Antiquité gréco-romaine, au sens le plus large, avec une attention toute particulière portée sur les cultures dites périphériques, le Maghreb, l'Égypte, le Proche-Orient, l'Afghanistan, liées par de fortes interactions à l'Europe méditerranéenne. Enfin, l'immense massif réunissant le Moyen-Âge, la Renaissance, le XVIIe et la tradition classique. Pour autant, n'ont pas été négligées les disciplines transversales ou rares qui témoigne de l'éventail de nos curiosités, notre attachement à ne négliger aucune approche pour la connaissance des hommes, de leur société et de leur histoire. À côté d'interventions plus classiques, retortissant à l'archéologie ou à l'étude des textes, au nom d'une quarantaine, on relèvera ainsi plusieurs exposés pour les disciplines suivantes, linguistique, lexicographie, histoire des sciences, histoire du droit, histoire de l'art, américanisme, historiographie, histoire de la pensée. Tous ces chiffres, impressionnants, c'est bien d'une seule année, que je viens d'énoncer, illustrent, je crois, le dynamisme de notre compagnie, dont le champ de la curiosité est universel. La place cardinale qu'elle occupe à la croisée du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche lui permet à l'évidence de réunir un tissu dense d'une masse d'informations d'ampleur inégale. Sans nul doute, l'attrait de présenter devant l'Académie les résultats d'une recherche tient aussi à ce qu'elle réunit des savants cultivant des disciplines très diverses, ce qui favorise de nombreuses discussions transversales à l'issue des exposés et permet d'ouvrir des perspectives nouvelles à leurs auteurs. 71 orateurs pour l'année académique de 2006-2007, 8 académiciens, 16 de nos correspondants français et étrangers, ainsi que 7 de nos associés. C'est ainsi que nous désignons nos membres étrangers, ce qui transcrit fort bien le rôle actif joué par ceux-ci pour la bonne marche et la qualité de nos réunions. Un tiers des exposés présentés sont dus à des étrangers, ce qui éclaire parfaitement l'ouverture internationale de nos séances et la considération qui est portée à notre compagnie de par le monde. Indiquons ici que le vendredi 9 novembre dernier, en présence du chancelier de l'Institut de France, M. Gabriel De Broglie, je suis heureux de saluer la présence parmi nous, le président Jacques Chirac a fait à notre compagnie l'honneur d'assister à sa séance, durant laquelle M. Bruno Deslandes, jeune directeur de la mission scientifique lettonne en Égypte, a donné la primeur à notre compagnie des travaux récents menés par lui à la pyramide à degré de Saqqara. Ce soutiendra des liens d'estime et d'amitié qu'entretenait notre ancien président de la République avec le regretté Jean-Philippe Loher. Nos séances sont souvent l'occasion de renforcer les liens noués avec des membres éminents de la communauté scientifique internationale. Ainsi, communication de notre correspondant espagnol Francisco Ricci, qui a jeté une lumière vive sur les débuts de la poésie lyrique romane et les influences arabo-andalouses exercées sur elle. l'exposé de M. Tahar Ghalia, directeur du musée du Bardo à Tunis, des professeurs Antonio Di Vita et Mario Luni, venus nous entretenir des travaux italiens menés actuellement en Libye, de notre correspondant autrichien Manfred Bitak, fouilleur de Talet Daba à l'antique Abaris, capitale des Hyksos dans le delta égyptien, de notre associé étranger Vassos Karagiorgis de Chypre, ou bien encore le professeur saoudien Ali Khaban, venu nous entretenir du Darb el-Bakra. Occasion nous a été également fournie de renforcer nos relations avec les savants du Kazakhstan grâce au concours de notre correspondant Franz Grenet, venu accompagné du professeur Alexander Podouchkine et de notre association étrangère britannique Nicolas Sims-Williams, nous présenter les inscriptions sogdiennes récemment mises à jour à Kultepe. Nous avons également eu l'honneur de recevoir parmi nous M. Fukui Bunga, professeur émérite de l'Université Waseda à Tokyo, qui a fait le point sur l'étude concernant le court texte du Sutra du cœur, Anya Shingyo, l'un des écrits bouddhiques les plus répandus de tout l'extrême-orient sinisé. M. Fukui est une autre personnalité du clergé bouddhique japonais, supérieur du temple de Nikku et grand recteur monacal de l'école Tendai. À côté des séances ordinaires du vendredi, sur l'organisation desquelles veille avec soin et vigilance notre bureau, la vie académique de l'année écoulée a été marquée par un certain nombre d'événements auxquels notre académie a pris part. Le samedi 10 février, une délégation de notre académie, associée à celle des sciences morales et politiques et à l'Académie des Beaux-Arts, a été reçue en audience privée par Sa Sainteté le pape Benoît XVI, membre d'ailleurs de l'Institut. Une médaille, frappée à son effigie par le graveur Robert Rigaud, lui a été offerte avec en exergue une inscription irénique tirée de l'épître des Éphésiens, choisie sur proposition de notre confrère Jacques Fontaine. Servare unitatem spiritus in vinculo passis, conserver l'unité de l'esprit par ce bien qui est la paix, tel est sans doute l'enjeu que présente le siècle dans lequel nous sommes engagés il y a peu. Du 9 au dimanche 11 février, notre Académie a entendu participer aux premières rencontres du livre des sciences humaines organisées par la Fondation de la Maison des sciences de l'homme. Nous y avons présenté un stand avec vendu des publications, pris des contacts aussi avec les éditeurs spécialisés. Monsieur Michel Prevost a présenté l'entreprise de la carte archéologique de la Gaule devant un public fourni et attentif. Le 15 et le 16 février, notre Académie a accueilli le bureau de l'Union académique internationale, présidé par M. Agostino Paravicini Baliani, notre correspondant de Genève, pour sa session annuelle. À ces séances de travail ont participé nos délégués Michel Zinc et Bernard Potier. Le mercredi 21 mars, une séance commune a été mise sur pied par notre compagnie et l'Académie des Beaux-Arts, représentée ici par son secrétaire perpétuel, pour accueillir le ministre grec de la Culture, Georgios Bulgarakis, venu inaugurer à Paris l'exposition Praxitèle du Louvre. Il a souhaité tirer profit de sa visite pour présenter devant notre compagnie les fruits d'une réflexion nourrie sur la politique patrimoniale à conduire en Europe, en vue de renforcer notre identité culturelle commune, qui, une fois solidement fondée, seule pourrait, à ses yeux, rendre possible l'unification politique du vieux continent. À l'issue de cette manifestation d'amitié franco-hellène, une très belle reproduction de la tête de l'Hermès d'Olympie nous a été offerte. À la fin juin, s'est tenu au Palais Mazarin un colloque sur la célèbre fratrie des Renacs, surnommés, des érudits célèbres, surnommés les frères Je sais tout, en raison de leur prodigieuse érudition. J pour Joseph, l'avocat auteur d'une monumentale histoire de l'affaire Dreyfus. S pour Salomon, le conservateur du musée national d'antiquité de Saint-Germain-en-Laye, pionnier de l'histoire des religions. T pour Théodore, l'archéologue et helléniste distingué. Une vingtaine d'exposés ont été présentés par des historiens du monde antique, des historiens de l'art, des contemporanéistes, c'est un grand pan, un vaste pan de la vie intellectuelle, scientifique, politique de la Troisième République a été redonné vie grâce aux bons soins de leurs organisateurs, Mme Sophie Bache, Michel Espagne et moi-même. Parmi les nombreux enseignements de ces journées et des échanges de vues auxquels elles ont donné lieu, on peut constater que pour les frères Reynac, l'érudition la plus exigeante devait être mise au service de la vie de la cité, une vision de l'humanisme qui devrait servir de devise à bien des historiens. Au début de septembre, s'est tenue la cérémonie de signature de l'accord multilatéral du Consortium européen pour la recherche sur le terrain en Asie, European Consortium for Asian Field Study, suivi d'une séance de présentation du projet dans notre grande salle des séances. C'est là une initiative du directeur de l'École française d'Extrême-Orient, l'EFEO, notre correspondant, le professeur Franciscus Verhelen. Ce consortium, dans lequel prend place notre compagnie, s'appuie sur un réseau de 17 centres répartis dans 12 pays d'Asie, de l'Inde et au Japon. Ayant pour objectif d'accroître l'accès au terrain dans cette partie du monde pour les chercheurs et les étudiants d'une trentaine d'institutions scientifiques de premier plan, relevant de 8 pays européens, il devrait favoriser un rayonnement accru de la recherche française en Europe et en Asie. Du début d'octobre, j'ai organisé à la merveilleuse Villa Kérylos sur notre côte d'Azur, avec M. André Vaucher, membre de notre compagnie, et Maurice Sartre, président de l'Institut européen d'histoire des cultures de l'alimentation, un colloque, le 18e, sur le thème des pratiques et discours alimentaires en Méditerranée de l'Antiquité à la Renaissance, abordé selon des points de vue divers en une vingtaine d'exposés. Enfin, tout récemment, notre compagnie a participé activement à la rencontre des académies européennes qui, à l'initiative de notre chancelier Gabriel De Breuil, s'est tenue à l'Institut de France sur le thème « Les académies en Europe au XXIe siècle ». M. Michel Cinq, membre de notre compagnie, a assuré l'organisation scientifique de cette rencontre et en a tiré des conclusions. Notre confrère Marc Fumaroli, de l'Académie française et de notre Académie, a prononcé dans ce cadre un discours au titre de grand témoin. À l'issue de la dernière matinée de cette réunion d'amitié interacadémique, s'est déroulée la séance solennelle de rentrée des cinq académies sous la coupole sur le thème « Identité nationale et universalité d'esprit ». Le délégué de notre académie était M. Emilio Marin, associé étranger, ambassadeur de Croatie auprès du Saint-Siège, qui a prononcé un discours remarquable dont le titre était « Le curé de campagne et le prix Nobel face à l'histoire ou l'enjeu de l'Europe et de la Méditerranée ». La rencontre des académies européennes avait été précédée d'un colloque à la Fondation Saint-Germain-Polignac sur les académies en Europe. M. Michel Zinck en a assuré la présidence avec le professeur Jean-Pierre Chaline. Il serait trop long et sans doute quelque peu fastidieux de vous entretenir du travail régulier et patient des 47 commissions qui ont été réunies cette année. Certaines jouent un rôle d'expert fondamental auprès des autorités publiques, notamment par les avis qu'elles présentent sur certains grands établissements de recherche à l'étranger, l'École française d'Athènes, l'École de Rome, l'École biblique de Jérusalem. D'autres veillent sur l'administration de nos faux délais ou la bonne marge de nos publications. Enfin, dernier ensemble de commissions, 38 au total, a décidé de l'attribution de nos prix, dont la liste va vous être proclamée dans quelques instants par notre vice-président. Le capital de la plupart de nos fondations ayant été laminé par les dévaluations successives, nombre de nos prix sont aujourd'hui dévolus grâce à l'apport déterminant de la Fondation d'Ourlan, M. Émile d'Ourlan, propriétaire de la salle Bagram, nous ayant institué en 1899 légataire universel. Heureusement, de nouveaux prix ont vu le jour récemment, permettant à notre Académie d'accroître son rayon d'action. Ainsi, cette année a été décerné pour la première fois le prix biennal Serge Lancel. D'un montant substantiel, il a pour objectif, selon le vœu de notre regretté confrère, qui était le maître de l'archéologie de l'Afrique punique et romaine, un grand spécialiste de l'œuvre de saint Augustin, de recomposer des ouvrages sur le Maghreb durant l'Antiquité ou d'y faciliter la mise en œuvre de recherches sur le terrain. À l'initiative de notre vice-président, Jean-François Jarige, a été créé auprès de notre Académie un nouveau prix d'un montant de 10 000 euros, doublé d'ailleurs cette année afin de récompenser deux lauréats, prévu par une période de 10 ans par son généreux donateur américain, M. Joseph Carroll. Ce prix, je cite, pour les études asiatiques en France en honneur du président Chirac, entend notamment rappeler l'importance de l'Asie dans notre pays et celle de ce dernier en Asie. Il vise à soutenir une recherche illustrant l'apport d'une approche française dans le domaine des études asiatiques. D'autres projets de mécénat américains, avec pour cheville ouvrière Jean-François Jarige, sont d'ailleurs en cours d'étude, qui pourraient aboutir à la création de plusieurs autres prix d'un montant équivalent à celui du prix Carroll. L'ensemble de ces prix constitue un des moyens d'action fondamentaux dont dispose notre Académie pour encourager la recherche. Pour répondre à cette même vocation, elle octroie régulièrement des aides à la publication et accorde son patronage à diverses entreprises savantes. Depuis les rivages italiens, grecs et libyens de la Méditerranée, jusqu'aux terres plus éloignées de l'Afghanistan et du Cambodge. Dans certains cas précis, à l'instar du fonds Louis-Robert que j'ai évoqué tout à l'heure, ou du corpus des inscriptions sémitiques créé par Ernest Renan en 1867, à la suite de sa mission fameuse en Phénicie, une charge de conservation revient à notre Académie, avec pour aboutissement un certain nombre de publications dont nous fournirons des exemples dans un instant. Pour mettre en exergue notre activité dans le domaine de la restauration et l'étude de ces témoins du passé, je citerai aussi volontiers l'entreprise en cours d'édition et de valorisation scientifique des papyrus d'Herculanum, Paris 1 et 2. Ce sont des textes du milieu du 1er siècle avant notre ère, attribués au philosophe épicurien Philodème de Gadara, dont nous avons confié l'exécution au professeur Delattre. Au printemps 2007, son équipe a été initiée par une sommité en la matière de professeur Knut Kleve de l'Université d'Oslo à une méthode originale permettant de décoller, à l'aide de solutions chimiques, les restes de couches supérieures qui gênent la lecture des papyrus carbonisés. Mais cette méthode, pour être efficace, n'en cause pas moins des dommages, si bien qu'avec l'autorisation de la Commission des archives et bibliothèques de l'Institut, une expérience de lecture avec un appareil unique en son genre, mis au point à l'Université du Kentucky et qui combine les rayons X et la résonance magnétique nucléaire, sera entreprise l'an prochain. Encourager et faire avancer la recherche, autant de missions fondamentales qui nécessitent pour être parachevées que l'on consacre moyens et énergie à la diffusion des acquis scientifiques qui en résultent. Nous essayons de les employer par un dispositif éditorial réunissant 27 collections et périodiques destinées en priorité à publics savants, près desquels ils attestent le haut niveau de la recherche française. Les ouvrages de notre Académie s'adressent aussi à un plus large public amateur d'histoire, aux étudiants avancés, intéressés par les disciplines relevant de la compétence de l'Académie, et plus généralement au monde enseignant. Ils sont diffusés auprès de 450 organismes universitaires et scientifiques à l'étranger, ce qui contribue pour beaucoup au rayonnement de notre pays dans le domaine des sciences humaines. Notre bilan éditorial se distingue par le nombre de ses titres, le soin apporté à la confection de nos ouvrages, souvent fort volumineux. Depuis l'an dernier, sont parus 3 fascicules des comptes rendus de réunions hebdomadaires. Une troisième livraison pour l'été 2006 est actuellement sous presse. Le tout formant un ensemble de quelques 2000 pages, agrémenté de plus de 500 illustrations, qui, malgré la couverture austère de nos crayes, attestent la richesse et la variété des travaux présentés lors de nos séances publiques. Cette vénérable publication, due à l'initiative de l'historien Agnès Desjardins, fêtera en 2008 son 150e anniversaire. Quant au Journal des Savants, date du XVIIe siècle, dirigé par Jean-Marc Cadet et Philippe Contamine, il a paru de son côté avec sa régularité exemplaire. ainsi que la collection des monuments et mémoires de la Fondation Pio, un des fleurons français au sein des grandes publications d'histoire de l'art, Pio étant un philanthrope qui nous a légué les fonds pour cette fondation. Cette publication s'est accrue d'un nouveau volume, le tome 85. Dans la collection des mémoires, deux volumes sont liés presque. Le premier, consacré à l'art gothique en Chypre, rassemblant les notices de 30 monuments effectués à l'époque des Lusignans, dus à la plume des meilleurs spécialistes. Depuis le livre de Camille Henlard, publié en 1999, aucun ouvrage n'avait s'y allé. Dans une perspective d'ensemble, cette production artistique singulière que forme l'accident du dernier état latin d'Orient. Ces choses faites, grâce à l'activité inlassable de notre correspondant Jean-Bernard de Vèvre et de Philippe Plagneux. La seconde réalisation consiste dans l'édition en deux volumes de la collection Clermont-Ganneau, Ostraca, épigraphe sur jarre, étiquette de bois, par Madame Hélène Nozac-Meur, avec le concours de plusieurs contributeurs éminents. Grâce à une étude exhaustive de la documentation araméenne recueillie sur l'île d'Éléphantine en 1906, il y a un siècle, l'éditrice n'a pas négligé de recourir aux apports de la céramique. C'est une documentation, somme toute, relativement modeste, avec aucune des révélations religieuses notamment auxquelles le monde savant avait cru s'attendre. Mais que d'indications précises sur la vie quotidienne dans la vallée du Nil, le 5e siècle avant notre ère. Toujours dans les riches domaines de l'orientalisme, est paru dans la collection de l'inventaire des inscriptions sud-arabiques un volume sur les fouilles de l'expédition pluridisciplinaire soviéto-yéménite intitulé Raïboun Kafas, temple de la déesse At-Iman, due à la plume de Sergei Frantsouzov. Dans la collection du répertoire iconographique sud-arabique, publié conjointement par notre Académie et l'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente, et récemment sorti des presses un nouveau tome sur les bronzes sud-arabiques d'époque pré-islamique. À côté de ces volumes, d'autres relèvent des études classiques. Ainsi, c'est avec une régularité sans faille qu'est paru cet été le volume des actes du 17e colloque d'Avia Kérinos, tenu en octobre 2006 sous la direction d'André Laronde et de moi-même, avec pour titre « La Méditerranée d'une rive à l'autre, culture classique et culture périphérique ». De même, notre collection de la cartographie de la Gaule, que dirige avec dévouement et vigueur notre collaborateur Michel Provost, n'a pas diminué son rythme de parution. 5 nouveaux titres, la Haute-Garonne, Lyon, Saintes, les Yvelines et le Tarn-et-Garonne. En outre, sont sortis des presses dans de brefs délais, les actes de la journée d'études du Corpus Vasorum Antiquorum, qui avait rassemblé en 2004 au Palais de l'Institut des millions de spécialistes sur le thème « Les clients de la céramique grecque ». Dans le domaine d'études médiévales, enfin, est paru dans la série des obituaires, recueil des historiens de la France, le volume 3, des rouleaux des morts, 1400-1451, édité par M. Jean Dufour, auxiliaire de l'Académie. On le sait, les progrès considérables accomplis ces dernières années dans le domaine des technologies informatiques et de l'Internet ont permis à l'édition numérique de faire florès. Notre compagnie ne pouvait ignorer ces innovations permettant d'accroître le champ de diffusion de ses publications. Aussi, durant l'été, notre Académie a-t-elle donné le départ à un vaste programme de numérisation rétrospective de ses périodiques, à savoir nos comptes rendus, le journal des savants, les menus pions. Une entreprise complexe qui s'inscrit dans le cadre du projet Percé du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui en assure en particulier le financement. À l'échéance de 2010, plus de 10 000 articles, c'est-à-dire près de 200 000 pages, illustrations incluses, seront consultables gratuitement sur le web et pourront être téléchargés. On espère, pour la fin 2008, la mise en ligne de l'ensemble des fascicules des comptes rendus de l'Académie parus au XIXe siècle. Notons que grâce au procédé d'indexation dont bénéficiera cette documentation, des recherches de mots en plein texte seront rendues possibles. Pour terminer, il nous faut indiquer que tout ce bulletin, si riche, si divers de publications, a été réalisé par une équipe éditoriale infiniment réduite. Tous ces résultats n'ont pu être obtenus que par l'énergie, la compétence et le dévouement à la tâche de M. Hervé Danesi et ses collaborateurs. À ce groupe si efficace et dévoué, j'adresse publiquement le témoignage de ma profonde reconnaissance. Je vous remercie.
Monsieur Jean-François Jarige, vice-président, donne lecture du palmarès 2007 et proclame la liste des nouveaux archivistes paléographes.
Jugement des concours, prix Allier de Haute-Roche, ce prix a été décerné à la Société des Amis du Musée numismatique d'Athènes pour les actes du colloque intitulé « La monnaie dans le dodécanèse et sa pérée en Asie mineure ». Mai 2003, édité par Madame Vassili Ki-Stefanaki. Prix Ambatielos, ce prix a été décerné à Monsieur Mario Luni pour son ouvrage intitulé « Cyrénée, Athénée d'Afrique ». Concours des Antiquités de la France, la première médaille a été attribuée à Monsieur Bernard Chevalier pour son ouvrage intitulé « Guillaume Brissonnet, vers 1445-1514 ». Un cardinal ministre au début de la Renaissance. La deuxième médaille a été attribuée à M. William Newton pour ses deux premiers volumes sur Versailles, intitulés « L'espace du roi, la cour de France au château de Versailles, 1682-1789, la petite cour, services et serviteurs à la cour de Versailles au XVIIIe siècle ». La troisième médaille a été attribuée à M. Bruno Restif pour son ouvrage intitulé « La révolution des paroisses, culture paroissiale et réforme catholique en Haute-Bretagne du XVIe et XVIIe siècle ». Prix Émile Benveniste, ce prix a été partagé entre M. Jacques Feuillet pour son ouvrage intitulé « Introduction à la typologie linguistique » et M. Xavier Tremblay pour son mémoire intitulé « Grammaire comparée et grammaire historique, quelle réalité est reconstruite par la grammaire comparée ? Prix Bordin. Ce prix a été décerné à M. Christophe Feyel pour son ouvrage intitulé « Les artisans dans les sanctuaires grecs aux époques classiques et hellénistiques, à travers la documentation financière en Grèce ». Prix du budget. Ce prix a été décerné à M. Daniel Lecoeur pour son ouvrage consacré à Daniel Dumontier, 1574-1646, catalogue de l'exposition, s'étant tenu au château de Chantilly du 22 mars au 26 juin 2006. Prix Joseph Carol. Ce prix a été partagé entre M. Nicolas Fievé pour son ouvrage intitulé « Atlas historique de Kyoto, analyse spatiale des systèmes de mémoire d'une ville, de son architecture et de son paysage urbain sous presse ». Et M. Philippe Papin pour son monumental « Corpus des inscriptions anciennes du Vietnam », dont 12 volumes ont été publiés à ce jour. Prix Chavez. Ce prix a été décerné à M. Frank-Val Meuren pour l'ensemble de son œuvre et plus particulièrement pour le dictionnaire étymologique de l'ancien français. Prix de la Fondation Louis de Clare. Ce prix a été décerné à M. Dominique Beyer pour l'aider à la publication d'un ouvrage sur les fouilles du site de Machnaka, vallée du Rabour, en Syrie. Prix Charles et Marguerite Diel. Ce prix a été partagé entre Madame Brigitte Pitarakis pour son ouvrage intitulé « Les croix reliquaires pectorales byzantines en bronze » et Monsieur Igor Dorfman-Lazareff pour son ouvrage intitulé « Arméniens et byzantins à l'époque de Photius, deux débats théologiques après le triomphe de l'orthodoxie. Prix du Seigneur, ce prix a été décerné au docteur Jorge Eiroa Rodriguez pour son ouvrage intitulé « Antigüedades medievales, catalogue de la collection du cabinet des antiques de la Real Academia de la Historia de Madrid ». Prix de la Fondation Paul Dumesnil. Ce prix a été attribué à Mme Rosemarie Le Boeck pour l'aider à poursuivre ses fouilles au temple de Karnak. Prix Estrade Delcros. Ce prix a été décerné à M. Pierre Bodin pour son ouvrage intitulé « Bourgeois, bourgeoisie et habitanage dans les villes du Languedoc sous l'Ancien Régime ». Prix de la Fondation Garnier. Ce prix a été décerné en complément du prix Hirayama à M. Zemar Yalai Tarzi pour les fouilles archéologiques qu'il conduit sur le site de Bamiyan, Afghanistan. Prix de la Fondation Garnier-Lestani. Ce prix a été décerné à l'Association pour la restauration et l'animation de la chapelle Sainte-Avoie pour l'aider à la restauration des peintures intérieures de sa nef. Prix roman Etania Girschmann. Ce prix a été décerné à Mme Valentina Rospopova pour la série des rapports sur les fouilles de la ville de l'ancienne Penjikent et plus largement pour l'encourager à la poursuite de la mission archéologique qu'elle dirige. Le prix Hébert Alan Giles. Ce prix a été décerné à M. Vincent Gossard pour son ouvrage intitulé « L'interdit du bœuf en Chine, agriculture, éthique et sacrifice ». Prix Gobert. Le premier prix a été décerné à M. Jean-Patrice Boudet pour son ouvrage intitulé « Entre science et nigromance, astrologie, divination et magie dans l'Occident médiéval, XIIe-XVe siècle ». Le deuxième prix a été décerné à M. Florent Garnier pour son ouvrage intitulé « Un consulat et ses finances, Millau, 1187-1461 ». Prix Hirayama. Ce prix a été partagé entre M. Zemar Yalai Tarzi pour l'aider à poursuivre les fouilles archéologiques qu'il conduit sur le site de Bamiyan, Afghanistan, M. André Couture pour son ouvrage intitulé « La vision de Markandeya, la manifestation du lotus, histoire ancienne tirée du Harivamsa » et Mme Jacqueline Pigeot pour son ouvrage intitulé « Mémoire d'une éphémère, 954-974 par la mère de Fujiwara no Michitsuna et pour l'ensemble de son œuvre. Le prix Stanislas Julien. Ce prix a été décerné à M. Stephen Tizer pour son ouvrage intitulé Reinventing the Wheel, Paintings of Rebirths in Medieval Buddhist Temples. Prix de la Fond Mélicoque. Ce prix a été décerné. A été décerné à Mme Valérie Besset pour son ouvrage intitulé « Les commanderies de l'hôpital en Picardie, au temps des chevaliers de Rhodes, 1309-1522 ». Prix de Lagrange. Ce prix a été décerné à M. David Trotter pour son ouvrage intitulé « Abdul Cassis, traitier de chirurgie, édition de la traduction en ancien français de la chirurgie d'Aboul Qassim Alaf Ibn Abbas el-Zahraoui, manuscrit BNF français 1318. Prix Serge Lancel. Ce prix a été décerné à Mme Leila Lajimi Sebaï pour son ouvrage intitulé « La colline de Birsa à l'époque romaine, études épigraphiques et état de la question ». Prix de la Fondation Raymond et Yvonne Lantier. Ce prix a été décerné à Mme Amina Okada et M. Thierry Zéphir pour le catalogue de l'exposition sur l'âge d'or de l'Inde classique, l'Empire Gupta, qui s'est tenu du 4 avril au 8 juillet au Grand Palais. Prix Émile Le Seine. Ce prix a été décerné à M. Philippe Laurence et Dany Sandron pour leur ouvrage intitulé Atlas de Paris au Moyen-Âge. Prix du Duc de Lubas. Ce prix a été décerné à Mme Aurore Monod-Béclin pour l'ensemble de son œuvre américaniste en anthropologie, ethnologie et linguistique concernant en particulier le Brésil et le Mexique. Prix Maspero. Ce prix a été décerné à Madame Christiane Wigler pour son ouvrage intitulé « Le Mastaba d'Aquetetep ». Prix Gustave Mendel. Ce prix a été décerné à Madame Vassili Gadjadis-Robin pour son ouvrage intitulé « Les sarcophages païens du musée de l'art l'antique ». Prix Noël Desvergers. Ce prix a été décerné à Madame Anne Vergati pour son ouvrage intitulé « Art et société au Népal ». Prix de la médaille Georges Perrault. Ce prix a été décerné à Mademoiselle Stéphanie Maillot pour son mémoire intitulé « Le système de défense établi par le légat Triarius dans l'île de Délos en 69 avant Jésus-Christ ». Prix Gabriel Auguste Prost. Ce prix a été décerné à Mesdames Michel Gaillard et Monique Goulet pour leur recherche sur l'histoire et la géographie messine. Prix Saint-Tour. Ce prix a été décerné à M. Jean-Paul Récoquet pour son ouvrage intitulé « Inscription grecque et latine de Tyr ». Prix Schlumberger. Ce prix a été décerné à M. Emmanuel Soler pour son ouvrage intitulé « Le sacré et le salut à Antioche au IVe siècle après Jésus-Christ, pratiques festives et comportements religieux dans le processus de christianisation de la cité ». Prix Max Serre. Ce prix a été décerné à Messieurs François Larcher et Franck Burgos pour leur ouvrage intitulé « La chapelle rouge, le sanctuaire de Barque de Hatshepsut ». Attribution des bourses. Bourse Jacques Vendier. Cette bourse a été attribuée à Mademoiselle Marie-Lise Sarnette pour l'aider à achever sa thèse de doctorat sur la mort perçue comme une nouvelle naissance dans les textes funéraires de l'Égypte pharaonique jusqu'à la fin du Nouvel Empire. Prix de l'Institut de France, décerné sur proposition de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Grand prix d'archéologie Simone et Sino del Duca. Ce prix a été décerné au Centre d'études alexandrines pour permettre la restauration et l'aménagement de la visite au public de la citerne El Nabi à Alexandrie. Prix d'Aumale. Ce prix a été décerné à Madame Véronique Julero pour son ouvrage intitulé « Il y a un grand désordre, élection épiscopale et schisme diocésain en France sous Charles VIII ». Prix Jean-Édouard Gobi. Ce prix a été décerné aux éditions Lavouivre pour la publication de travaux importants concernant l'œuvre française en Égypte. Délivrance des diplômes d'archiviste paléographe. En exécution des prescriptions d'une lettre du ministre de l'Instruction publique notifiée le 8 février 1833, l'Académie déclare que les élèves de l'École nationale des chartes qui ont été nommés archivistes paléographes par arrêté ministériel du 16 juillet 2007, conformément à la liste dressée par le conseil scientifique de cette école, sont par ordre de mérite M. Jean-François Mouflet, Mlle Laure Riust, Mlle Stéphanie Aubert, M. Rémi Matisse, Mme Hélène Cavaillé, Mlle Vanessa Zolosi, Mademoiselle Anne Christophe, Monsieur Sébastien Pérard, Mademoiselle Anaïs Dupuis-Olivier, Monsieur Jean-Baptiste Le Goff, Mademoiselle Agathe Dufour, Mademoiselle Clotilde Anglès, Monsieur Romain Vance, Mademoiselle Clotilde Romet, Monsieur Jean-Marie Barbiche, Mademoiselle Claire Chemel, Monsieur Vincent Bois, Mademoiselle Mathilde Koschka, Mademoiselle Magali Duquesne, Mademoiselle Marion Pirangelo, Monsieur Thibault Bouard. Hors rang, Mademoiselle Louise Fauduet, Monsieur Yann Potin, Mademoiselle Soline Suchet. À titre étranger, Monsieur Alain Dubois.
Monsieur Jean Delumeau, membre de l'Académie, donne lecture de son discours intitulé « Don Mabillon, le plus savant homme du royaume.
En cette séance de rentrée, notre Académie se devait de commémorer le 3e centenaire de la mort de l'un de ses pères fondateurs, dont Jean Mabillon, décédé en 1707 à l'abbaye bénédictine de Saint-Germain-des-Prés. Je viens de dire fondateur. Pourtant, l'acte de naissance de notre compagnie est antérieur et se situe officiellement en 1663, lorsque Colbert regroupa quelques lettrés ayant mission, je cite, de donner leur avis sur toute chose qui regarde les bâtiments du roi et où il peut entrer de l'esprit et de l'érudition. Cette petite académie, suivant l'expression du temps, aurait pu disparaître à la mort de Colbert en 1683, mais Louvois l'installa au Louvre et augmenta le nombre de ses membres, y faisant entrer Racine et Boileau comme historiographes du roi. Toutefois, à la mort de Louvois en 1691, la compagnie gardait encore un statut fragile. Intervint alors le comte de Pontchartrain, secrétaire à la maison du roi, qui élargit les objectifs fixés à l'Académie. Elle ne s'occuperait plus seulement de dédicaces sur des statues et des bâtiments et de légendes sur des médailles, mais aussi, entre guillemets, de toutes les connaissances, notamment historiques, permettant d'approfondir la religion, la philosophie, la politique et le droit. Les comptes rendus des séances commencèrent en 1694. En 1701, la compagnie devint statutairement une institution d'État, tandis que le nombre de ses membres était porté à 40, répartis en 4 classes, la plus élevée de celles-ci étant celle des 10 honoraires. Mabillon fut alors choisi pour être l'un de ces honoraires. Sa notoriété internationale comme érudit avait rendu cette nomination incontournable. Encore aujourd'hui, son nom s'impose internationalement aux chercheurs en histoire, car il a, pour la première fois, écrit un discours de la méthode destiné à tous ceux qui scrutent les documents et notamment les textes que nous a livrés le passé. C'est pourquoi notre Académie se tourne ce soir avec une reconnaissance particulière vers Mabillon, créateur de l'érudition critique. Cette célébration et le colloque qui suivra dans quelques jours, ici même à l'Institut, s'insère dans une sorte de retour à Mabillon, marqué ces dernières années par les travaux de Blandine Criégel et Dodon Hurel et par la renaissance en 1990 de la revue Mabillon. Rien pourtant ne paraissait destiner Jean Mabillon, né en 1632 dans une modeste famille champenoise, à Mont-Saint-Pierre, près de Rethel, au statut international qui était devenu le sien au moment de sa mort. Tôt orphelin de mère, il dut à un oncle prêtre de pouvoir faire des études à Reims. Doué intellectuellement, en même temps attiré par la vie monastique, il fit profession à l'abbaye bénédictine Saint-Remi de Reims, en 1634. De santé fragile, longtemps accablé de graves maux de tête, il passa successivement dans 5 abbayes avant d'être envoyé en 1663 à celle de Saint-Denis, puis l'année suivante à Saint-Germain-des-Prés. Au cours de ces 9 années, on avait remarqué à la fois sa modestie, son dévouement et son aptitude aux travaux d'érudition. D'où ce transfert à Saint-Germain-des-Prés, qui était à l'époque un lieu de regroupement des meilleurs érudits de la capitale, et
je dirais presque surtout, le principal centre intellectuel des bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, les Mauristes. L'œuvre historique de Mabillon est inséparable de son appartenance à cette congrégation. Depuis la fin du XVe siècle et plus encore, depuis le Concile de Trente, les bénédictins s'efforçaient de revenir à l'observance de leurs règles. Dans les pays de langue française, cette réforme fut d'abord le fait de la congrégation lorraine de Saint-Van de Verdun, créée en 1604, qui essaima bientôt dans plusieurs abbayes du royaume de France, et le besoin se fit alors sentir de créer une congrégation qui serait propre à ce royaume de France et qui vit le jour au Blanc-Manteau de Paris en 1618. Elle prit le nom de Saint-Maur, compagnon de Saint-Benoît, et tenue pour l'introducteur de la règle bénédictine en France. Le succès des Mauristes fut tel qu'en 1707, il comptait 193 maisons avec un effectif d'environ 2200 religieux. Or, le retour à la pureté primitive de la règle comportait une dimension historique. Retrouver l'origine des abbayes, dresser l'inventaire de leurs bibliothèques, de leurs manuscrits et de leurs reliques, reconstituer sur des bases solides le passé de l'ordre, la vie de ses saints, mieux connaître les auteurs monastiques et aussi procurer de bonnes éditions des pères de l'Église. Et c'est parce qu'il était profondément attaché à son ordre que Mabillon consacra sa vie à l'érudition, pour laquelle il avait une attirance que ses supérieurs surent détecter. Et c'est parce qu'on avait repéré à Saint-Denis ses aptitudes aux travaux historiques que Mabillon fut envoyé donc en 1664 à Saint-Germain-des-Prés comme adjoint au bibliothécaire de cette abbaye, dont Luc d'Achery. Celui-ci préparait alors, mais ne put pas achever, une édition des documents recueillis, c'est le titre, sur les saints de l'ordre bénédictin, qui paraîtra de 1668 à 1701, et surtout grâce à Mabillon. Mabillon mena désormais un combat, certes toujours courtois et charitable, mais ferme, en faveur d'une recherche perspicace et objective dans la vérité historique et dans le domaine des études religieuses. Études religieuses concernant l'Occident durant une période allant de l'Antiquité tardive à la fin du Moyen Âge. Mais sa ligne de conduite est apparue ensuite avec le recul du temps, transposable à toute enquête scientifique sur le passé, d'où sa permanente actualité, d'où aussi les critiques qui lui furent adressées de son vivant. Arrivé à Saint-Germain-des-Prés, Mabillon fut chargé de préparer une édition des œuvres de Saint-Bernard qui parut en 1667. Mais en outre, et surtout, comme il vient d'être dit, Luc d'Achery lui demanda de travailler à la vie des saints de l'ordre bénédictin. Et il s'agissait, au sujet de ceci, d'apporter des correctifs aux Acta Sanctorum que les bollandistes d'Anvers, il s'agissait de jésuites, avaient commencé à éditer en 1643, les saints étant alors classés sous la date du jour où on les honore dans l'Église romaine. Mais ces acta des bollandistes d'Anvers parurent à Luc d'Achery contenir des erreurs. Et décision fut prise chez les Mauristes, et en particulier par les deux moines, Mabillon et d'Achery, de ne se fonder que sur des actes authentiques, de respecter les originaux, de replacer à leur vraie place chronologique des saints qui étaient morts avant Saint-Benoît et de ne pas annexer à l'ordre des moines dont on n'était pas sûr qu'ils avaient connu et pratiqué la règle de saint Benoît. Les Acta Sanctorum Ordinis Sancti Benedicti furent publiés en 9 volumes échelonnés de 1668 à 1701. Et dès le premier, le public se partagea entre admiration et protestation. Admiration pour la rigueur de la méthode, mais aussi protestation parce qu'était mise à mal une tradition qui, jusque-là, assimilait en Occident monachisme et ordre bénédictin. Mabillon et Achery furent parfois accusés, dans leur ordre même, d'appauvrir l'identité de leur famille monastique. Et Mabillon fut donc obligé, à la demande de ses supérieurs, de justifier sa méthode historique, ce qu'il fit par un abrégé, c'est le titre, qui date de 1678. Il y démontrait, je cite, que saint Benoît n'a pas établi un ordre différent de celui des anciens et que, dans un premier temps, tous les religieux d'Occident ne formèrent qu'un seul corps. Fin de citation. Saint Benoît mourut en 547 et c'est seulement après 700 que la règle de saint Benoît fut observée dans tout l'Occident. Mabillon pouvait donc affirmer, avant que notre règle ne s'établisse, en Italie, en France, en Espagne, il y avait dans ces pays-là quantité de monastères peuplés de saints religieux. L'ouvrage le plus connu de Mabillon, le De Re Diplomatica, publié en 1681, s'insère dans cette polémique sur la méthode historique. En 1675, un bollandiste, le père Papenbroek, publia à Anvers un livre au titre ambitieux, Propyléum, le portique, où il proposait une doctrine certes très exigeante en matière de recherche historique à partir des Acta Sanctorum qu'éditaient précisément les jésuites des Pays-Bas. Mais en pratique, il se fourvoya, au moins partiellement, dans l'exécution de son dessein. D'une part, il rejeta comme faux des documents indiscutablement authentiques et déclara vrais des documents faux. Et d'autre part, il jeta le soupçon sur des chartes et diplômes conservés à l'abbaye de Saint-Denis. Et Mabillon fut désigné par son ordre pour répondre au père Papenbroek, ce qu'il fit par le De Re Diplomatica, qui s'ouvrait, entre parenthèses, par une dédicace à Colbert, champenois comme Mabillon, et qui fut l'un de ses protecteurs. Par ce livre, Mabillon fonda la diplomatique, qu'il qualifia de science nouvelle, en donnant les règles qui permettent d'établir la date, la provenance, la nature et donc l'authenticité d'une charte ou d'un document écrit, d'en étudier la rédaction première et les transcriptions successives, et d'éclairer les institutions qui créèrent puis diffusèrent la charte ou le diplôme en question. Et rien n'échappait à cette analyse perspicace, ni le support de l'écrit, ni l'écriture elle-même, changeante en fonction des époques, ni le style, ni la signature ou le sceau concluant le document. Et le plus beau compliment fait à Mabillon à propos de ce livre vint du père Papenbroek lui-même, qui lui écrivit « Je vous avoue que je n'ai plus d'autre satisfaction d'avoir écrit sur cette matière que celle de vous avoir donné occasion de composer un ouvrage si accompli. Ne faites pas difficulté toutes les fois que vous en aurez occasion de dire publiquement que je suis entièrement de votre avis. » Cet ouvrage rendit Mabillon célèbre. Son auteur fut présenté à Louis XIV par l'archevêque de Reims, Le Tellier, qui le qualifia devant le roi d'homme le plus savant du royaume et le plus humble, compléta Bossuet. Colbert voulut lui accorder une pension de 2000 livres, mais Mabillon refusa par ces mots « Que pourrait-on penser de moi si, étant pauvre et né de parents pauvres, je recherchais dans la religion ce que je n'aurais espéré dans le siècle ?» Dès avant la publication du Re Diplomatica, Mabillon avait été amené à voyager en compagnie de plusieurs confrères pour des motifs de travail, c'est-à-dire pour consulter, voire découvrir des documents anciens, notamment dans les abbayes, acheter de vieux livres, visiter les fonds négligés des bibliothèques, etc. Il publia ensuite ses notes de voyage en Flandre, en Bourgogne, dans les pays germaniques et en Italie, qui devinrent, dans les milieux érudits, des modèles du genre. Sur le chemin de l'Allemagne en 1683, il découvrit à Luxeuil un ancien lectionnaire du rite gallican, écrit en très beau caractère mérovingien et qu'il publia 2 ans plus tard. Au cours du voyage d'Italie, il trouva d'anciens rituels romains et, à l'abbaye de Bobbio, un ancien sacramentaire gallican du 7e siècle. En Italie encore, il acheta pour la bibliothèque royale et fit envoyer à Paris quelques 4 912 livres, dont 674 in-folio, ce qui d'ailleurs suscita quelques émotions, il faut le dire, en Italie. Mais, question posée par le fugueux abbé de Rancé, est-ce que de telles activités, et notamment le souci d'une histoire érudite, conviennent à des moines ? Dans son ouvrage « De la sainteté et des devoirs de la vie monastique » 1683, le fondateur de la Trappe affirmait que la vocation du moine est de travailler manuellement, de prier et de faire pénitence. « Or, il n'y a point d'exercice de pénitence, écrivait-il, qui n'ait été ni plus pratiqué ni plus recommandé par les moines que le travail des mains. » Non seulement Rancé imposait aux trappistes des austérités stupéfiantes, obligeant par exemple à conduire les mourants à l'église pour qu'ils y reçoivent les derniers sacrements, mais il soumettait ses moines à des humiliations, car, écrivait-il, on doit les humilier et les confondre tant qu'ils n'auront ni la mortification du crucifié, ni la sainteté des apôtres, ni la pureté des anges. Or, ceci visait les moristes. L'étude, écrivait Rancé, détruit l'humilité et transforme des maisons de paix et de retraite en des académies tumultueuses. Selon Rancé, les ouvrages des pères de l'Église et les vides saints doivent fournir des exemples, mais non faire l'objet de recherches érudites. Mabillon, à la demande de son ordre, Mabillon répondit à Rancé par plusieurs écrits, notamment un traité des études monastiques publié en 1691 qui proposait une autre approche de la vocation et de la pratique bénédictine. Il y montrait que les plus anciens couvents bénédictins eurent des bibliothèques, que saint Benoît établit les études dans ses monastères et, entre guillemets, qu'on peut compter entre les causes de la décadence de l'ordre, le défaut des études et de l'amour des bonnes lettres. Et il s'agissait, pour Mabillon, de faire échec par ce traité à une possible déstabilisation de son ordre que pouvaient provoquer les attaques de Rancé. L'échange d'arguments entre l'un et l'autre fut particulièrement intense en 1692-1693, d'autres moristes étant aussi entrés en ligne. Mais, vous l'avez deviné, Mabillon avait un tempérament irénique. À la demande de la duchesse de Guise, amie de Rancé, Mabillon, qui se rendait à Tours pour le chapitre de son ordre, accepta de faire un détour par la Trappe en mai 1693, Les deux protagonistes tombèrent dans les bras l'un de l'autre et cessèrent toute polémique entre eux. Le métier d'érudit pouvait donc, à l'époque, ne pas être de tout repos. Et le souci de la vérité historique entraîna Mabillon dans d'autres difficultés. Au cours de son voyage studieux en Italie de 1685-1686, il visita les catacombes de Rome et s'alarma de la facilité avec laquelle on y prenait des ossements pour les adresser ensuite comme reliques de martyrs aux quatre coins de la catholicité. Un décret de la Congrégation des Rites, pris en 1668, permettait de considérer toute tombe désignée par une palme ou par une fiole apparemment teintée de sang comme ayant contenu les restes d'un martyr. Mabillon contesta ces critères. La palme pouvait se trouver à côté d'inscriptions n'ayant aucun caractère chrétien. Et les fioles pouvaient avoir servi à tout autre usage qu'à recueillir le sang d'un martyr. Seuls devaient être considérés, disait-il, comme ossements de martyr, ceux près duquel se trouvait la mention expresse de leur exécution. Plusieurs années après son retour d'Italie, Mabillon publia, en 1698, en latin, et sous un nom d'emprunt, mais qui était transparent, une lettre, c'est le titre, une lettre d'Eusèbe à Théophile sur le culte des saints inconnus pour souhaiter plus d'esprit critique dans l'authentification des reliques. Le succès de cette lettre fut considérable en France et l'accueil le plus souvent favorable. Fléchier, évêque de Nîmes, écrivit à Mabillon: il fallait qu'un homme aussi éclairé et aussi judicieux que vous l'êtes nous apprît à discerner dans l'obscurité des sépulcres les cendres des saints avec celles des pécheurs et à régler, selon les preuves évidentes ou douteuses, les honneurs qu'on rend parfois indifféremment à des ossements incertains comme aux reliques des martyrs. Il y avait longtemps que je souhaitais qu'on abolît certaines superstitions qui s'introduisent en faveur de ces corps qu'on appelle saints et qui n'ont peut-être jamais été baptisés. Les peuples sont naturellement crédules, la cour de Rome est quelquefois bien libérale de tels présents. Néanmoins, le Saint-Office fut alerté par des dénonciateurs. La lettre d'Eusèbe fut déférée à la congrégation de l'Index. Mais, sur les instances du pape de l'époque, Clément XI, l'affaire se termina par un compromis. Mabillon publia en 1705 une nouvelle édition latine de sa lettre suivie d'une traduction française. Il n'émettait plus en cause le décret de 1668 et admettait qu'une fiole teintée de sang était un indice irrécusable de martyr si toutefois la trace de sang était formellement identifiée. En revanche, Mabillon eut une position moins nette au sujet, entre guillemets, de la sainte larme de Vendôme. Dans le couvent moriste de cette ville, on vénérait une larme que Jésus aurait versée sur le tombeau de Lazare, recueillie par un ange dans une fiole de cristal, apportée par Marie-Madeleine à Aix-en-Provence. Elle aurait été ensuite transportée à Constantinople, puis ramenée en France, et plus précisément à Vendôme, au XIe siècle, par Geoffroy Martel, comte d'Anjou et de Vendôme. L'empereur byzantin remerciait ainsi le comte d'avoir chassé les Sarrasins de Sicile. Cet épisode est raconté sur la balustrade du XVIe siècle qui entoure le cœur de l'église abbatiale, et le fragment de cette balustrade illustré, projeté ici, insiste donc sur les larmes, là c'est le pluriel, sur les larmes du Christ au tombeau de Lazare. Or, intervint au sujet de la Sainte Larme le curé de Vibray dans la Sarthe, Jean-Baptiste Thiers. Jean-Baptiste Thiers a retrouvé de nos jours une réelle notoriété parce que son traité des superstitions, 1679, et son traité des jeux et divertissements, 1686, d'inspiration rigoriste, constituent pour le chercheur d'aujourd'hui des documents précieux d'ethnohistoire. Thiers, dans un premier temps admirateur de Mabillon, mais ensuite défenseur inconditionnel de Rancé contre les mauristes, s'en prit vigoureusement à la légende de la Sainte-Larme de Vendôme dans une dissertation publiée en 1699. Il y accusait les mauristes de faire vénérer une relique contre laquelle leur science et leur érudition auraient dû les mettre en garde. Mabillon, en 1700, prit la défense des bénédictins de Vendôme, notamment par une lettre à l'évêque de Blois, dans le diocèse de qui se trouvait l'abbaye mise en cause. Alors, ce faisant, était-il en contradiction avec lui-même? En réalité, moins qu'on pourrait d'abord le croire. Lorsqu'il s'agissait des restes des catacombes, hâtivement attribués à des martyrs, il fallait empêcher la création abusive de nouveaux cultes à partir de preuves insuffisantes. Dans le cas de la relique de Vendôme, Mabillon ne se prononçait pas sur son authenticité, mais il constatait l'ancienneté et la bonne foi de la vénération qui lui était rendue et estimait que cette tradition devait être maintenue, qu'elle était utile à la religion, entre guillemets, quand bien même l'objet immédiat ne serait qu'une représentation. Au cours d'une carrière bien remplie, Mabillon se trouva ainsi, en tant qu'érudit, mêlé au débat de son temps. Car il participa aussi aux discussions internationales de l'époque portant sur l'attribution de l'imitation de Jésus-Christ. Et d'autre part, il dut affronter des critiques aussi bien jansénistes que molinistes au sujet de la nouvelle et remarquable édition bénédictine des œuvres de Saint-Augustin, à laquelle il prit une part considérable. Il faut enfin rappeler, presque entre parenthèses, que Mabillon, très isolé en son temps à cet égard, à propos d'un sien cousin devenu moine fugitif emprisonné, prit parti contre la dureté des prisons des ordres religieux et écrivit des réflexions, c'est le titre, des réflexions sur ce sujet, mais sans convaincre beaucoup de monde à son époque. En tout cas, son dernier ouvrage fut un traité de la mort chrétienne, 1702, qu'il mit en pratique ensuite dans une longue maladie supportée avec une patience et une foi admirables, et ses derniers mots furent « humilité, humilité, humilité ». Sa mort, en 1707, provoqua l'émotion dans toute l'Europe savante. En 1809, les cendres de Mabillon furent réunies dans une même tombe, scellée maintenant au mur de Saint-Germain-des-Prés, à celle d'un autre bénédictin érudit, Bernard de Montfaucon, et à celle de Descartes. Deux auteurs de discours de la méthode se trouvent ainsi désormais réunis côte à côte, le philosophe et l'historien. La Bruyère semble bien avoir pris Mabillon comme modèle de l'homme docte, lorsque, dans ses caractères, il décrivit celui-ci, je cite, « comme une personne humble qui est ensevelue dans le cabinet, qui a médité, cherché, consulté, confronté, lu ou écrit toute sa vie ». Et j'emprunte ma conclusion au spécialiste averti de Mabillon qu'est Odon Hurel. La présence de Mabillon à l'Académie des inscriptions en 1701 fut, écrit-il, le signe de la reconnaissance par le pouvoir royal de l'érudition mauriste dans la France et l'Europe moderne. Ce n'est pas pour rien si, dès son décès, on envisage dans la congrégation, événement rarissime, la rédaction d'une biographie et la collecte de sa correspondance en vue de sa publication. Mabillon devient alors une sorte de symbole, celui d'un monachisme éclairé, mais s'il connaît cette destinée posthume, c'est aussi parce que de son vivant, il fut considéré comme un membre de la République des Lettres, et j'ajouterai, pour terminer, qu'il reste pour nous l'homme qui nous a pris, il y a 300 ans, à lire le passé avec amour, science et rigueur.
Il me revient à présent de vous parler de l'Institut et des Amériques. La ville de Saint-Dié a abrité l'an dernier le Festival international de géographie consacré à l'année des Amériques, fêtant ainsi les 500 ans de la mort de Christophe Colomb, 1506, et les 500 ans du baptême du Nouveau Monde. C'est en effet en 1507 à Saint-Dié-des-Vosges qu'est imprimée la Cosmographiae Introductio, qui contient les récits de voyage de Amerigo Vespucci. Elle est accompagnée d'un texte latin qui, se référant au nouveau continent, dit ce qui suit. Je ne vois pas ce qui interdirait de l'appeler à partir du nom de son génial découvreur Amerigo, soit Amerigae, terre d'Amerigo, ou mieux America, puisque Europa et Asia sont tirés de noms de femmes. Ce nom de America figure sur la carte dessinée par le géographe Martin Waldseemüller, qui faisait partie du gymnase vosgien de Saint-Dié. Et c'est pourquoi l'Allemagne a voulu commémorer cet événement en émettant un timbre reproduisant les 12 feuilles de cette carte. Celle-ci est reproduite à partir de l'exemplaire unique acquis en 2003 pour une somme de 10 millions de dollars par la bibliothèque du Congrès de Washington auprès du prince Waldburg-Wolfegg, qui conservait ce trésor, seulement redécouvert en 1901 dans son château de Bade-Wurtemberg. En haut à droite de cette carte de 1,20 m sur 2,40 m figure Amerigo Vespucci. Et dans le quart, en bas à gauche, se détachant sur un continent assez squelettique, apparaît le mot « America ». Restons dans le domaine de la philatélie. En 1956, le chancelier Édouard Bonnefous était ministre des PTT lors du voyage officiel en Europe du nouveau président du Brésil, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Il eut l'initiative d'émettre un timbre-poste pour célébrer l'amitié entre la France et les pays d'Amérique latine. Les deux premières propositions, dessinées par Clément Cerveau, dont c'était la première réalisation d'un timbre-poste, ont été infructueuses. La première représentait deux femmes, à droite une Marianne et à gauche un autre visage féminin très peu différencié. Il était certes difficile de caractériser d'une façon significative ce que pouvait être la femme latino-américaine. Dans la seconde tentative, c'est une statuette en or de la région de Cusco qui était simulée pour figurer l'Amérique, la France étant symbolisée cette fois à partir d'une statue célèbre de Michel Colomb, terminée en 1507, date vraiment symbolique, représentant la prudence, et dont on ne voit que la face jeune, le visage du vieillard qui se trouve à l'arrière n'apparaissant évidemment pas. Le troisième projet qui a été retenu, présentait un nouveau dessin de Clément Cerveau et la gravure était de Jules Piel. La notice officielle de l'administration des postes décrivait ainsi l'illustration choisie, je cite. On a représenté sur le timbre ornée des signes aztèques et incas, à gauche, une figure masculine inspirée à la fois d'une tête totonaca, Mexique, au musée de Cleveland, et d'une tête mochica, Pérou, au musée de Munich. À droite, une figure féminine, celle d'une des femmes du tombeau de François II de Bretagne à la cathédrale de Nantes. Voici, d'après les archives de la Poste, comment sont caractérisés les ornements qui remplissent les vides. Au centre, en haut, le soleil, tiré du pendentif du musée de Oaxaca. Au-dessus et sur la bordure de gauche, motif tiré d'un autre pendentif de Oaxaca et symbolisant la lune. Bordure de droite, cathédrale de Cahors. Tout cela est bien approximatif. Et le respectable catalogue Hiver et Tellier ajoute du trouble en qualifiant la tête de gauche de sculpture péruvienne du XVIe siècle, guerrier ataviado, avec un A majuscule, comme s'il s'agissait d'un nom d'ethnie. Or, il s'agit d'un guerrier en tenue d'apparat, ataviado, inspiré nettement d'une céramique mexicaine de style Veracruz. Un des documents dit « premier jour des missions » porte la bonne légende « Guerrero ataviado » avec un A minuscule. Depuis une vingtaine d'années, les cultures aztèques, mayas, incas, ainsi que celles des peuples amérindiens des plaines du Nord, ont fait l'objet de nombreuses expositions dans les musées de Paris et de province. Le nouveau musée du Quai Branly a d'ailleurs choisi comme emblème une céramique précolombienne du Mexique central, symbole de la fertilité, appelée la Chupicuaro, du nom d'une culture de l'Ouest mexicain qui s'est développée entre moins 600 et plus 200 de notre ère. Mon exposé sera accompagné de plusieurs projections, car emblème, symbole, image, tout le domaine du visuel a pris une place fondamentale dans notre civilisation, une place comparable à celle qu'occupa de l'Antiquité l'expression par le chant et la danse, affirmait le chancelier Gabriel de Broglie dans un essai sur la télévision, dont le titre, inspiré d'un proverbe chinois, était « Une image vaut 10 000 mots ». L'année 2007 a été marquée par la création d'un nouvel organisme national. Le 5 mars, M. Gilles de Robien, alors ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, présentait devant l'Académie des sciences morales et politiques l'Institut des Amériques, afin de disposer en France, je cite, « en matière de documentation, d'enseignement et de recherche, d'une institution de référence en Europe pour l'étude du continent américain ». Il est prévu un pôle Amérique latine et un pôle États-Unis-Canada, chacun de regroupant plusieurs antennes régionales. Dès 2001, M. Jean-Michel Blanquet rédigeait un premier rapport et le nouveau document de janvier 2007 présente, dans le détail, les caractéristiques et les finalités de l'institution. Dans un premier temps, 19 universités et instituts d'études politiques ont été retenus, 11 dans la région parisienne et 8 en province. Il est clair que la dominante actuelle est largement politique, économique et sociale. Il serait légitime d'élargir la collaboration à une dizaine d'autres centres particulièrement actifs dans les domaines de l'anthropologie, de l'archéologie, de l'ethnologie et de la linguistique. Dans le premier volume publié dans le cadre de l'Institut des Amériques, intitulé « Être indien dans les Amériques », Philippe Descola rappelle opportunément les grands moments de l'histoire des Amérindiens, depuis la richesse de leur passé jusqu'aux mésaventures de leur présent. Citons un passage de la récente allocution du ministre. Il dit « Depuis Tocqueville jusqu'à Claude Lévi-Strauss, des intellectuels français de premier plan ont fait des Amériques leur objet principal d'étude. » Qu'il me soit permis d'adresser à M. Claude Lévi-Strauss, membre de l'Académie française, nos sentiments de respectueuse admiration. J'ai choisi de montrer une scène qui le représente auprès d'un Indien Tupi-Kawaib il y a 70 ans, lors de ses recherches en Amazonie, alors qu'il enseignait à l'Université de São Paulo. Quant à Alexis de Tocqueville, membre d'abord de l'Académie des sciences morales et politiques, puis de l'Académie française, il a laissé, en dehors de son traité de la démocratie en Amérique, de nombreux témoignages de ses voyages à travers le continent nord-américain et on lit avec curiosité les réflexions sur ses contacts avec les tribus indiennes narrées dans la lettre à sa cousine Eugénie de Grancey en 1831. De nombreux académiciens ont reçu des distinctions de la part des instances de plusieurs pays d'Amérique du Nord et du Sud, décorations, doctorat honoris causa ou élections comme membre d'Académie nationale, mais il n'est pas possible d'en faire état à présent. L'Institut de France, à travers ses 5 composantes, a apporté une vaste contribution au développement de l'américanisme. L'Académie française a compté parmi ses membres Charles-Marie de la Condamine, dont les travaux seront évoqués plus loin. Pierre Loti, qui en 1871 fait escale pendant 2 mois au Chili, à Valparaíso, ville qui lui a d'ailleurs dédié une rue, avant d'aborder l'île de Pâques, source de son journal d'un aspirant de la flore. Jacques Soustelle, qui a fait connaître par de nombreux travaux la vie quotidienne et la cosmologie des Aztèques. Ou encore Fernand Braudel, qui a eu fréquemment l'occasion d'associer l'Amérique à ses études sur le monde moderne. L'Institut des hautes études de l'Amérique latine décerne un prix Fernand Braudel à des chercheurs vénézuéliens en sciences sociales depuis 2 ans. Rappelons enfin que le chancelier Pierre Messmer a reçu en 2003 les insignes de l'Ordre des francophones d'Amérique. À l'Académie des sciences, le continent américain a toujours attiré les savants. En 1736, la Condamine, Pierre Bouguet, Louis Godin et Joseph de Jussieu partent au Pérou pour mesurer les degrés du méridien à l'équateur. L'abbé Jean Chape d'Auteroche se rend en Californie pour observer le passage de Vénus sur le disque du Soleil en 1769. Alexandre Humboldt, un des plus grands scientifiques de la première moitié du XIXe siècle, dont les voyages, souvent en compagnie d'Aimé Bonpland, correspondant de la section de botanique, dans les bassins de l'Orénoque et de l'Amazone, dans les Andes et aux États-Unis, ont fait considérablement progresser la connaissance de ces régions. Notons d'autre part que Philippe Bouache et son neveu Jean-Nicolas Bouache, membre également de l'Académie des sciences morales et politiques, ont contribué, à la fin du XVIIIe siècle, à l'établissement de cartes du continent américain, dont plusieurs sont conservées à la bibliothèque de l'Institut. Si le temps le permettait, bien d'autres membres ou correspondants pourraient être cités pour leur voyage scientifique en Amérique du Sud. Le père Louis Feuillet, cartographe et botaniste, Jacques Arthur, médecin du roi à Cayenne, Joseph Dombey, Jean-Baptiste Leblon, Auguste de Saint-Hilaire, Joseph Boussingault, Robert Fitzroy et Charles Darwin, sans oublier Dom Pedro II d'Alcântara, empereur du Brésil, correspondant de la section de géographie. Les attaches familiales en Louisiane de l'actuel secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, Arnaud d'Autrive, le prédestinaient à des relations intimes avec l'Amérique. À titre de symbole, nous citerons son tableau de 1985 intitulé « America », qui se trouve au Musée des Arts de la Nouvelle-Orléans. Guy de Rougemont a réalisé des œuvres à Santiago du Chili et a conçu le Parque Metropolitano de Quito, en Équateur. Lucien Clergue présente d'importantes collections de photographies au célèbre Fogg Museum de l'Université de Harvard. De nombreux artistes ont exposé leurs œuvres dans les plus grandes villes américaines, New York, Washington, Los Angeles, San Francisco, Montréal, São Paulo. Citons, en regrettant de ne pouvoir être exhaustif, Pierre Caron, Eugène Dedaigne, Albert Ferraud, Yves Millecamp, Antoine Poncet, Vladimir Veliskovitch, Zhao Wuki. Yann Arthus Bertrand photographie depuis plusieurs années le monde vu du ciel, ce qui nous a fait découvrir des paysages et des monuments sous un jour nouveau. Prenons le Castillo de Chichen Itza au Yucatan, présenté généralement depuis le sol. Vu de haut, la perspective apporte une autre dimension. À l'Académie des sciences morales et politiques, Louis Baudin travaillait au début du siècle dernier sur l'Empire Inca et sur Pissarro. Jean Vellard, correspondant, suivait comme médecin les civilisations du miel et du curare en Bolivie et au Paraguay. Parmi les contemporains, Pierre Chaunu illustre les relations entre Séville et l'Atlantique et brosse un tableau des Amériques de la préhistoire à nos jours. Et Emmanuel Leroy-Ladurie rédige une préface à l'édition américaine d'un document historique indigène important, le Codex Aztec Telleriano-Remensis, conservé à la Bibliothèque nationale de France. Quant à notre Académie des inscriptions et belles-lettres, elle a compté parmi ses membres des historiens comme Marie-Armand Pascal d'Avezac de Castellamacaya, qui publia en 1858 « Les voyages de Amérique Vespuce au comte de l'Espagne » ou comme mon maître Marcel Bataillon, spécialiste de la conquête et de la colonisation espagnole, en particulier de Bartolomé de las Casas. J'ai moi-même contribué au développement de la linguistique amérindienne en créant un séminaire à l'Institut des études de l'Amérique latine en 1964, puis à l'École pratique d'autres études en 1966 et en 1972, une équipe d'ethnolinguistique amérindienne au CNRS. Une mention particulière doit être réservée à Ernest Amy, anthropologue de grand renom, qui au début du siècle dernier, parmi ses nombreuses contributions scientifiques, s'est intéressé aux manuscrits mexicains, aux voyages et aux écrits d'Alexandre Humboldt, de Joseph de Maistre ou de Aimé Bonpland à travers l'Amérique du Sud. Parmi nos associés étrangers, il convient de mentionner Wilhelm von Humboldt et les discussions qu'il a menées sur la typologie des langues avec Abel Rémusa et le duc de Luba, sur le rôle duquel je reviendrai. Citons encore deux correspondants étrangers, Antonio Tovar, auteur d'un catalogue des langues d'Amérique du Sud, et Hans Jacob Zeiler, qui a décrit un parler uto-aztèque du Mexique. Un correspondant, Jean Nadayac, préhistorien, a travaillé dans les années 1883-1896 sur les anciennes populations de Colombie et de la Guadeloupe. Et un auxiliaire de l'Académie, Henri Beuchat, est l'auteur, en 1912, d'un remarquable manuel d'archéologie américaine. Depuis 20 ans, plusieurs communications ont été présentées à notre Académie sur un thème intéressant, l'Amérique ancienne. En 1984, Bernard Potier, les premiers grammairiens des langues amérindiennes. En 1988, Daniel Lavallée, l'occupation préhistorique de l'abri de Telarmachay, Pérou, un aspect de la néolithisation andine. En 1996, Guy Stresser-Péan, le codex de Chicotépec, découverte et interprétation d'un manuscrit pictographique aztèque inédit du XVIe siècle. En 1997, Michel Launay, nouvelle direction dans les recherches sur les langues amérindiennes. En 2002, Christian Duverger, les écritures figuratives de l'Amérique préhispanique, l'exemple mésoaméricain. En 2006, Marc Touvenot et Jean-Michel Lepan, les écritures mésoaméricaines, aztèques et mayas, orientations actuelles de la recherche. En 2007, Daniel Levin, l'iconographie religieuse de l'ancien Pérou, écriture du divin. L'aztèque et le maya seront également présents lors du colloque organisé par le Collège de France et l'Académie des inscriptions les 24 et 25 janvier 2008 sur « Images et conceptions du monde dans les écritures figuratives ». Plusieurs ouvrages américanistes ont été présentés au cours de nos séances. D'autre part, Canal Academy vient de diffuser des entretiens sur les relations franco-argentines dans les domaines de la littérature, de l'histoire et des sciences sociales. À noter également le rôle de liaison de notre Académie auprès de l'Union académique internationale pour la participation française et en particulier celle du musée du Quai Branly à l'entreprise du Corpus Antiquitatum Americanensium qui envisage de publier toutes les collections des antiquités précolombiennes conservées dans les différents musées d'Amérique et d'Europe. Quant aux nombreux prix attribués par notre Académie, je retiendrai le prix Volney et le prix du duc de Luba. Constantin François Chasseboeuf de la Giraudais, comte de Volney, figure dès 1795 dans la classe des sciences morales et politiques, puis dans celle de langue et littérature française de la future Académie des inscriptions et belles-lettres, et devient, en 1816, membre de l'Académie française. Il visite très tôt les États-Unis, et à la fin de son ouvrage de 1803 intitulé « Tableau du climat et du sol des États-Unis d'Amérique », il ajoute les résultats d'une de ses propres enquêtes de terrain de 1798 sur le vocabulaire des Indiens Miami, de langue algonquine. Les Blancs, laissés après certains mots non traduits, montrent la difficulté de l'entreprise. Peu avant sa mort en 1820, Volney fonde un prix de linguistique d'abord destinée à la transcription des langues asiatiques. Puis le champ s'élargit et la commission qui gère ce prix propose en 1833 le thème suivant « Déterminer le caractère grammatical des langues de l'Amérique du Nord ». Parmi les lauréats des premiers prix décernés, on note les noms de Johann Carl Eduard Buschmann et de Charles-Étienne Brasseur de Bourbourg, tous deux cependant fortement critiqués au sein de la commission du prix, comme en témoignent les archives de l'Institut. Puis ce sont Lucien Adam, qui publie en 1878 son « Examen grammatical comparé de 16 langues américaines, grammaire caraïbe du père Raymond Breton », et Rémi Siméon pour son « Dictionnaire de la langue nahuatl ou mexicaine » de 1885. Ce prix continue d'être attribué tous les 5 ans, et le dernier dans le domaine américaniste l'a été en 2001 à Francisco Quechalos pour sa description du Sicuani, langue de Colombie. J'évoque maintenant le second cas, celui d'un mécène américain hors du commun, Joseph Florimond de Luba, élu par notre Académie comme associé étranger en 1907. Son plus grand mérite, dans le domaine de l'américanisme, qui n'est que l'un de ses nombreux centres d'intérêt, et d'avoir subventionné l'édition d'une dizaine de codex mexicains. Et il s'en explique dans la préface qu'il écrit pour le codex Fejervari-Mayer en 1901. Se référant à Alexandre de Humboldt, qui déplore que de nombreux témoignages de civilisation américaine restent non publiés, le duc de Luba précise, je cite, « Aucun gouvernement n'a répondu à l'appel de Humboldt. Pour combler cette grave lacune, j'ai pris le parti de reproduire à mes frais en chromophotographie et de distribuer aux principales bibliothèques de l'Europe, des deux Amériques et du Japon, les manuscrits mexicains mentionnés par Humboldt. » Et un peu plus loin, à propos du codex présenté, il ajoute « Je n'entrerai dans aucun détail sur l'histoire et le contenu de ce manuscrit, puisque mon savant ami, M. le professeur Edward Zeller, titulaire de la chaire de linguistique, d'ethnographie et d'archéologie américaine que j'ai fondée à l'Université de Berlin, a bien voulu se charger de ce travail délicat. » L'introduction se termine par une mention des prix créés par le mécène pour encourager l'américanisme, en commençant en 1888 par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, prix que nous continuons à attribuer régulièrement. Cette année, c'est Aurore Monod-Béclin qui a été distingué pour ses recherches dans les domaines de la culture maya et des langues amazoniennes. De la dizaine de manuscrits aztèques publiés grâce au duc de Luba, dont le nom apparaît traduit dans les titres en anglais, en allemand, en italien et en espagnol selon les langues utilisées par les commentateurs, je mentionnerai 3 d'entre eux pour donner une idée de la richesse et de l'intérêt de la documentation. Le Codex Fejervari-Mayer du musée de Liverpool est un manuscrit de l'époque préhispanique de presque 4 mètres de long et son contenu est un almanach divinatoire et cérémoniel. Le Codex Borbonicus de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale à Paris du début du XVIe siècle, annoté en espagnol après la conquête du Mexique, est également un almanach religieux et divinatoire. Le Codex Magliabecchiano de la Bibliothèque de Florence est d'époque coloniale et raconte des épisodes de la vie des Indiens. Il est accompagné de commentaires en nahuatl, traduits en espagnol. La plupart des codex mexicains ont été réédités dans la seconde moitié du siècle dernier à Graz, en Autriche. Naturellement, toutes les publications du duc de Luba sont à la bibliothèque de l'Institut. En dehors des récits de voyages classiques des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles à travers les Amériques, on trouve dans cette bibliothèque plusieurs ouvrages mondialement célèbres et magnifiquement illustré. Sur la faune américaine, avec John James Audubon, qui entre 1827 et 1833 reproduit en grandeur nature les oiseaux nord-américains, ou sur la flore, avec les divers volumes du père Charles Plumier des années 1700, qui décrit pour la première fois un fuchsia ou fuchsia, du nom d'un botaniste célèbre, Leonard Fuchs, et le bégonia des Antilles, ainsi nommé en l'honneur de Michel Bégon, gouverneur de Saint-Domingue, en 1680. À la fin du XIXe siècle, la bibliothèque a reçu en don le fonds Simon Bolivar, composé de 3000 volumes sur l'Amérique du Sud, en particulier l'Argentine, collection complétée en 1930 par un don de Ignacio Gutiérrez Ponce. Lorsqu'on s'intéresse aux 400 documents photographiques sur l'Amérique de la bibliothèque de l'Institut, on retrouve le nom du duc de Luba, dont l'ex libris figure sur plusieurs collections d'antiquités mexicaines. Les sites de Copan, Palenque, Mitla, Tikal ont été photographiés par Théobert Mahler, Alfred Maudslay et Désiré Charnay. Ce dernier a fait l'objet d'une notice d'Ernest Théodore Ami dans ses Décades américaines, et une exposition lui a été récemment consacrée au musée du Quai Branly. On note aussi une soixantaine de photos des fouilles de Tiahuanaco, en Bolivie, de 1903, par les frères Sintich, et d'autres de la région de Oaxaca, au Mexique, de 1895 et 1901, par Marshall Howard Saville. On se reportera au chapitre sur les antiquités américaines du bel ouvrage publié par l'Institut et Actes Sud, intitulé « Éclat d'histoire, les collections photographiques de l'Institut de France, 1839-1918 ». Cette richesse de la documentation historique permet de comparer des états successifs de monuments, comme c'est le cas du Temple du Soleil de Palenque, dont la première reproduction est celle d'Alfred Maudslay en 1889, refotographiée un siècle plus tard en 1989. Le fonds de la bibliothèque Mazarine doit également être évoqué. Je me limiterai aux trois grammaires qui figuraient à l'exposition de juin et juillet dernier consacrée au siècle d'or espagnol. Lima, 1606, Doctrina Cristiana, par Luis de Valdivia, qui contient des prières en mapuche, langue des Araucans du Chili. Madrid, 1616, Gramática en la lengua general del nuevo reino llamado Mosca, de Bernardo de Lugo, langue chipcha de Colombie. Mexico, 1645, Arte de la lengua mexicana con la declaración de los adverbios de Elia, de Horacio Carocci, concernant le nahuatl classique. Pourquoi, dans le titre d'une grammaire, mettre en relief des adverbes? C'est ce type de question que je vais aborder pour terminer, en présentant quelques réflexions sur la nature des langues amérindiennes. Parler des langues amérindiennes, c'est se référer à une ère regroupant une quinzaine de grandes familles linguistiques, peu ou pas apparentées, et quelques centaines de langues isolées. Le nombre de locuteurs est de l'ordre de 30 millions, inégalement répartis, et dont le maintien varie suivant les politiques linguistiques locales. Rien qu'en Guyane, les six langues utilisées appartiennent à trois familles différentes, Arawak, Carib et Tupi-Guarani. Signalons que d'autres langues sont enseignées dans l'université française, et en particulier à l'INALCO, du nord au sud du continent, l'Inuktitut des Inuits ou Esquimaux, le Nahuatl, le Maya, le Quechua, l'Aymara, le Guarani. Toutes ces langues font l'objet d'études dans de nombreux pays et elles ont eu des destins variés. Voici une anecdote. Umberto Eco a écrit en 1994 un ouvrage intitulé « La recherche de la langue parfaite », où il retrace l'histoire de l'utopie d'une langue universelle. Au moment où se développait la traduction automatique par ordinateur, un ingénieur bolivien, Iván Guzmán de Rojas, trouve dans la langue Aymara, décrite dès 1603 et 1612 par Ludovico Bertogno, le modèle le plus analytique et explicite susceptible de servir de tertium comparationis, de langue pont, disait-on, pour toutes les autres langues. C'était en 1979 le projet Atamiri, assez vite oublié. Les langues amérindiennes ont souvent alimenté les débats entre linguistes théoriciens. L'une des plus célèbres discussions concerne les liens entre la pensée et la langue. Selon les tenants de ce qu'on appelle l'hypothèse Sapir-Whorf, les structures d'une langue seraient un moule pour la pensée, aspect du déterminisme. De la même façon qu'une différence dans la langue entraînerait une différence dans la pensée, aspect du relativisme. Ainsi a-t-on voulu faire croire, par exemple, que le Hopi, parlé en Arizona, ne connaissait pas d'expression du temps. Mais en 1983, un anthropologue américain, Eckhart Malocti, écrivait un volume de 677 pages intitulé « Hopi Time ». On lira avec intérêt le livre publié par Jean Rousseau et Denis Thouars sous le titre de « Lettres édifiantes et curieuses sur la langue chinoise, Humboldt, Abel Rémusat, 1821-1831 », où ces deux membres de l'Institut se livrent à une discussion qui concerne également les langues amérindiennes. Une vision, par trop restrictive, sur les capacités de l'esprit lorsqu'il tient à exprimer une pensée, je dirais malgré les contraintes de la langue, me paraît inadéquate. Seule cette lutte de la pensée pour dire à travers les mots explique le développement de la phraséologie et d'une façon générale l'évolution des langues. Il est de bon ton, parmi les historiens de la linguistique, de reprocher aux anciens grammairiens de plaquer les catégories du latin sur la langue amérindienne décrite. Cela est très injuste. Même s'il est vrai qu'à propos des pronoms ou des noms, il est fait référence au cas latin, il suffit de lire dans le détail les commentaires qui accompagnent le texte pour se rendre compte que les auteurs sont sensibles aux spécificités de l'idiome qu'ils pratiquent journellement. Lorsqu'ils ont eu à traduire le Notre Père, les missionnaires ont dû souvent choisir, et cela a été le cas dans plusieurs langues amérindiennes, entre le « nous » dit « inclusif » s'appliquant à l'ensemble des humains, « nyanderu » en guarani, et le « nous » dit « exclusif » qui rejetait les non-catholiques, « oreru ». Les deux traditions sont attestées. Cette différence dans la perception des collectivités se note en français, qui dit « nous tous et nous autres ». Et c'est aussi l'origine de l'espagnol « nosotros », issu du nos médiéval. Une certaine conception de la possession se reflète dans le fait que les noms se répartissent en trois classes en nahuatl. Ceux qui ont besoin du préfixe possessif, la main, le père. Ceux qui peuvent l'avoir, le pain, la colombe. Et ceux qui l'excluent, la neige, le nuage. Le français manifeste sa sensibilité par le fait qu'un fort contexte est nécessaire pour comprendre « ce père est à moi » ou « ce nuage est à toi ». Si Carocci, cité plus haut, a fait un sort particulier aux adverbes, c'est que sous cette appellation sont placées ces nombreuses particules évoquant le temps, l'espace, l'intensité, les modalités, les relations d'enchaînement, ainsi que tout ce qui, à présent, est recouvert par le terme de « marques énonciatives ». Seule la pratique quotidienne des missionnaires auprès des autochtones permettait cette connaissance subtile. C'est également une fine observation des comportements qui a permis aux descripteurs d'analyser les traits distinctifs dans le choix, par exemple, des mots relatifs aux façons de porter un objet. Sur le dos, kutch, sur la tête, patch, entre les dents, katz, sur la main, nol, etc. C'est le cas en Tseltal, langue maya du Mexique. La motivation visuelle se note également dans la composition des noms toponymiques, ici dans la tradition aztèque. À partir de Tepe, la colline, on y superpose une tête de jaguar, Ocelo, d'où le glyphe d'un village des environs de Mexico, Ocelotepec. La colline est le grand parc de la ville de Mexico, où se trouve le musée national d'anthropologie, Chapultepec, est représentée par une sauterelle, Chapulli, sur une colline, Tepe, donc le mont des sauterelles. C'est ce qu'on appelle en héraldique des armoiries parlantes. Le « que » final est un suffixe locatif, de la même manière que le français a un préfixe locatif, le « a » que l'on trouve sur les enseignes telles que « à la barque fleurie » ou « au rendez-vous des chasseurs ». Je finirai par trois exemples qui me paraissent bien situés, ce que peut apporter l'étude de ces langues à la réflexion sur le langage. Notons que la symbolique de la parole, une volute s'échappant de la bouche, ici celle d'un guerrier toltèque à Chichen Itza, s'exprime constamment dans les sculptures et dans les codex. Dans sa description du toupi, le père Ruiz de Montoya, en 1640, a un chapitre intitulé, je traduis, « Des trois temps que possèdent les noms ». Présent, prétérite, futur. Et il cite Tetam, pueblo, village, Tetangue, pueblo que fue, village qui a été, ancien village, Tetanrama, pueblo que ha de ser, village qui doit être, futur village. L'enquêteur a intérêt à connaître ces faits, car il peut se trouver dans des situations qui le laissent perplexe. Imaginons que l'on veuille savoir comment se dit en guarani l'os d'un poulet qui vient d'être consommé. La réponse sera la kangwe, et elle sera trompeuse. Car en réalité, l'informateur a répondu par un ex-os, puisque celui-ci ne se trouvait plus dans son état naturel d'os inséré dans un être vivant. En réalité, « os » se dit seulement « kang ». Ce même suffixe « kwe », « gwe », vaudra pour une maison en ruine ou une femme qui a passé l'âge d'avoir des enfants. Un second piège. Il semble normal de dire en français « mon père, à 14 ans, savait déjà très bien pêcher ». Le jésuite José d'Anchieta, dans son Arte de la langue tupi de 1595, nous met en garde sur l'impropriété de ce type de construction. Le raisonnement qui s'impose dans une telle situation, précise-t-il, est le suivant. Lorsqu'il avait 14 ans, il n'était pas mon père. Je dois donc dire, celui qui allait être mon père savait déjà très bien pêcher à 14 ans. Pour conclure, comme tout enquêteur, je préparais moi-même des phrases susceptibles de me renseigner sur des constructions que je jugeais intéressantes. Je demandais donc à un informateur dans le Chaco paraguayen de me traduire « Hier, je suis allé chasser ». Après un silence, il m'a répondu « Ce n'est pas vrai. Hier, je n'ai pas fait cela, alors je ne peux traduire. » Quelle belle leçon, ce souci du dire vrai. Merci.
Vous venez d'entendre la retransmission de la séance publique annuelle de l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui s'est déroulée sous la coupole de l'Institut de France le 23 novembre 2007.